Chers frères et sœurs, quand vous recevez un message, qu'il s'agisse d'un courrier électronique, d'un SMS ou d'un message sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous assure que vous êtes bien en correspondance avec un être humain? Qu'est-ce qui vous assure que vous n'êtes pas en communication avec un ordinateur? Mais voyez-vous, c'est tout le sens de ce qu'on appelle le test de Turing, du nom de ce mathématicien qui est connu pour avoir cassé le système de cryptage allemand durant la Seconde Guerre mondiale, le fameux Enigma. Alan Turing rédige un article en 1950 sur l'intelligence et les ordinateurs. Et il commence par poser cette question qui est devenue fameuse: une machine peut-elle penser? Vaste question qui aujourd'hui prend une tonalité particulière avec toute la réflexion et le travail autour de l'intelligence artificielle. Tout cela est le fruit de ces travaux préliminaires de ce mathématicien anglais Alan Turing. Pour nous aider à réfléchir à cette question, il propose un jeu qui consiste à communiquer par écrit, à l'aveugle, avec un correspondant dont on ignore s'il est un homme ou un ordinateur. Et vous posez toutes les questions que vous voulez, et vous analysez la réponse, et vous avez 5 minutes pour vous faire des opinions. Le critère que Turing donne est que si ce jeu est dupliqué, par exemple si nous étions tous en train de communiquer avec ce correspondant mystère, le taux de certitude devrait être autour des 70%. Il faudrait que 70% des personnes considèrent que c'est bien un être humain, alors qu'en fait c'est un ordinateur, pour que l'ordinateur passe le test de Turing. Ce n'est encore jamais arrivé. Comment reconnaître un ordinateur d'un être humain lorsque nous communiquons sans pouvoir le toucher, sans pouvoir le voir? Eh bien, c'est également la question qui se pose à Salomon. Deux femmes se disputent la maternité d'un bébé. Chacune prétend être la mère de l'enfant vivant et affirme que l'autre est la mère de l'enfant qui est mort. Alors, un très léger effort de logique nous permet de comprendre que l'une des deux ne dit pas tout à fait la vérité. Du moins dans une logique assez aristotélicienne. Alors, pour résoudre cette énigme, Salomon va leur faire passer le test de Turing. Salomon est le véritable inventeur du test de Turing, qui, je vous le rappelle, consiste à distinguer un humain d'un ordinateur. L'une des deux, en revendiquant un enfant qui n'est pas le sien, en voulant soustraire son enfant à sa véritable mère, manifeste un comportement qui n'est manifestement pas ce qu'on attend d'un être humain. Sans vouloir faire de sexisme, encore moins d'une mère. En faisant de l'enfant un objet, une chose que l'on pourrait accaparer, l'une des deux femmes a cessé d'avoir un rapport humain avec le vivant. Cette femme, dont on ignore encore l'identité, se comporte comme un ordinateur qui applique une logique froide, une logique sans cœur, pour nous dire avec une formule poétique, une logique qui prend les choses et les humains comme des variables de même nature. Salomon va donc chercher à débusquer quelle est la femme qui raisonne selon une logique froide, selon une logique qui ne fait pas de différence entre un bébé et une miche de pain. Il va leur faire passer le test de Turing en adoptant lui-même une logique froide, débarrassé de tout sentiment, débarrassé de toute dimension symbolique. Et cela va lui permettre de voir comment elles vont réagir face à l'inhumain. Au fond, ce qui caractérise peut-être l'humain de l'inhumain, c'est que l'humain sait ce qu'est l'inhumain. Quelle sera leur réaction quand il va commander qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on donne une moitié à chacun selon un principe de pure égalité? Eh bien, la femme ordinateur est d'accord avec cet arrangement, qui est un bon résultat pour elle, selon la logique du « un demi vaut mieux que un tueur ». D'un point de vue du calcul, c'est un bon résultat pour elle. La véritable mère, au contraire, ne considère pas que l'enfant est une chose parmi d'autres, que l'on pourrait posséder, et qu'il vaut mieux en avoir un petit bout plutôt que pas du tout. La véritable mère, c'est bien qu'un enfant ne peut pas être coupé en deux. Et comme elle ne considère pas que l'enfant soit une chose qui lui appartienne, elle considère qu'il vaut mieux qu'il soit en vie avec une autre, plutôt que mort et partagé, même si elle peut en avoir un petit morceau. La véritable mère a conscience de ce qu'est la vie, jusque dans cette dimension symbolique. Alors que la femme ordinateur, justement, n'a pas de conscience. Pour être honnête, Alan Turing n'utilise pas le terme de conscience dans son article. Néanmoins, il nous emmène sur le terrain de la conscience pour discerner l'humain de l'ordinateur. Il donne quelques exemples de questions que l'on peut poser pour essayer de distinguer l'humain de l'ordinateur. Une question que nous aurions pu vous poser il y a encore 2-3 mois, je le cite, « Que pensez-vous de Picasso ?» C'est une manière de mettre l'interlocuteur en situation d'exprimer quel est son degré de conscience. C'est une question assez subtile en fait. Cette question devrait en principe nous conduire à parler de notre réaction face à l'œuvre de Pablo Picasso, à ce que son art provoque en nous, que ce soit de l'admiration ou du rejet, ou de l'incompréhension. Toutes choses que vous aurez pu expérimenter par l'exposition qui avait lieu au Musée Fabre. Un robot, lui, vous renseignera sur Picasso lui-même. Il vous fournira ses éléments biographiques. Éventuellement, il pourra évaluer ses éléments biographiques. Mais vous voyez, dans cette question assez anodine, que pensez-vous de Picasso? Pour nous, il est évident que c'est de l'œuvre dont on parle et pas de l'homme Picasso. Eh bien, l'ordinateur, lui, analyse les données qu'il a à sa disposition. Il n'est pas en mesure de pouvoir interpréter ce que l'autre a derrière la tête, comme on dit. Ce passage biblique, par conséquent, peut nous aider à penser ce qu'est l'humain, en considérant le fonctionnement de l'ordinateur et l'élaboration de ce que l'on nomme aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et je crois que nous pouvons dégager trois points sur lesquels se fonde l'humanité. L'empathie, le raisonnable et la responsabilité. Le premier point, c'est l'empathie. Dans ce texte biblique, l'empathie est manifestée par la véritable mère qui pense à l'enfant et pas uniquement à elle. Ou plus exactement, ce que risque de subir l'enfant s'il est effectivement coupé en deux, ce qu'il risque de subir la touche et lui fait réaliser l'horreur de la situation. Le philosophe Adam Smith parlera même de sympathie pour dire ce qui caractérise l'être moral. Un être qui développe, je cite, un intérêt pour ce qui arrive aux autres. Pouvoir imaginer ce que l'autre est susceptible de ressentir. Voilà ce qui fait l'humain. Et voilà ce qui l'empêche d'être un barbare. Il est très intéressant de lire le témoignage de ces aumôniers qui ont été au contact des criminels de guerre qui étaient traînés devant le tribunal de Nuremberg. Ils ont eu l'opportunité d'accompagner ces anciens nazis, et de pouvoir essayer de comprendre quels étaient leurs ressorts psychologiques. Et ils avaient quelque chose en commun. Ils n'avaient pas d'empathie. Ils étaient incapables d'imaginer ce que l'autre était susceptible de ressentir dans telle ou telle situation. L'empathie, c'est ce qui manque aux grands criminels. L'empathie, c'est ce qui fait qu'une catastrophe naturelle qui emporte la vie sur son passage ne saisit les fois. L'empathie, c'est ce qui nous distingue de l'ordinateur. La différence entre l'ordinateur et l'humain est que face à des images affreuses d'enfants yéménites en train de mourir de faim, l'ordinateur sera capable d'estimer le poids de l'enfant décharné, alors que l'humain, lui, sera saisi au trip. Comme cette femme dans ce récit, comme la véritable mère de l'histoire biblique, et l'humain se demandera ce qu'il est possible de faire pour sauver ses semblables. Le deuxième point est l'aspect raisonnable du jugement humain. Raisonnable et non pas uniquement rationnel. La différence est vraiment décisive. Nous sommes des êtres rationnels. Nous sommes capables de savoir que 1 plus 1 égale 2. Et quand on nous dit que 1 plus 1 égale 2, nous ne nous roulons pas par terre de rage. Nous sommes des êtres rationnels, mais nous sommes capables de formuler des phrases avec une syntaxe correcte, de penser par analogie. Un être rationnel est quelqu'un qui comprend ce qu'on lui dit. Nous sommes capables de rejoindre l'autre dans sa culture. Il est donc indispensable d'être rationnel pour être humain. Sinon, il serait impossible de vivre les uns avec les autres. Si nous ne comprenons rien au code de la route, ça va être la catastrophe dans les rues de Montpellier. De plus, la rationalité est ce qui rend nos décisions propres à préserver la vie, à préserver notre intégrité, à préserver notre avenir. Une décision rationnelle est une décision qui va nous permettre d'avoir le plus grand profit possible ou, à tout le moindre mal. Une décision irrationnelle est une décision qui va contre nos intérêts. Mais il ne suffit pas d'être rationnel. Encore faut-il être raisonnable. Être raisonnable, c'est tenir compte de l'autre dans l'équation de ma propre vie. Salomon ne se contente pas d'un calcul froid qui consiste à couper la poire en deux pour mettre tout le monde à égalité. Après tout, on pourrait se dire, ah, pour calmer les velléités de l'une et de l'autre, on coupe la poire en deux. Et ça devrait être comme ça. Calmer tout le monde. Non, ce que cherche Salomon, c'est de prendre soin de chaque protagoniste, y compris de la femme ordinateur, sur laquelle il ne sera pas prononcé de parole de condamnation. Le philosophe John Rawls définit le caractère raisonnable d'une attitude par le fait qu'elle envisage la coopération avec autrui. Le raisonnable, dit-il, est un élément de l'idée de société conçue comme un système équitable de coopération. Être raisonnable, c'est tenir compte de l'autre dans ma façon d'élaborer mes décisions. Le raisonnable, c'est faire preuve d'altruisme. C'est-à-dire se préoccuper de ce que l'autre est en train de vivre. Mais cette fois, en l'intégrant dans le fonctionnement de la société. Il ne s'agit plus simplement d'être saisi au trip. Il s'agit aussi d'organiser la vie commune de telle manière que personne ne soit lésé. Que tout le monde ait les moyens de poursuivre ses objectifs personnels, tout en tenant compte des autres. Ce qui est raisonnable, par exemple, c'est de considérer que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autre. Ce qui est rationnel, c'est de vouloir faire en sorte d'être libre. Vous voyez, il y a une légère nuance qu'il s'agit d'apprécier. Autrement dit, le raisonnable dit que la justice s'élabore à plusieurs et que mon seul désir ne suffit pas à construire une société juste. Est humain celui qui ne se suffit pas à lui-même et qui le sait. Le troisième point, c'est la responsabilité. Ce que ce texte nous dit, c'est que l'application mécanique des règles, ce qui est le corps de l'ordinateur, est invivable. L'application mécanique des règles, de la loi, est proprement invivable. Cela nous est révélé par l'attitude de la véritable mère qui refuse l'injonction du roi Salomon. C'est imaginable. Le roi Salomon donne un ordre, et elle qui n'a rien, une prostituée, je vous rappelle. C'est vraiment le moins que rien dans la société juive de l'époque. Elle se dresse et elle oppose un non catégorique. Elle répond à l'injonction de Salomon par une décision personnelle, par un jugement personnel. Elle refuse l'argument d'autorité qui consisterait à dire « Le roi a parlé, maintenant nous appliquons. » L'autre, en revanche, elle le prend peur. Elle est même plutôt satisfaite de la décision comme nous l'avons vu. Ça corrobore son calcul personnel. Ce que nous dit ce texte, de façon peut-être légèrement polémique, c'est qu'obéir comme un cadavre est la meilleure façon de semer la mort. Envisager que le moindre aspect de la vie puisse être réglé à l'avance, puisse être programmé en quelque sorte, sans que nous ayons à nous impliquer, est tout simplement mortel. Car la vie n'est pas un scénario écrit à l'avance, du moins pas en théologie chrétienne. Par conséquent, une éthique qui serait elle-même programmée à l'avance, c'est-à-dire une éthique de principe, valable en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, quelles que soient les personnes concernées, eh bien c'est une manière de rendre notre monde invivable. Et pourtant, bien des personnes s'en remettent à une telle éthique de principe, qui se contente d'appliquer mécaniquement les règles comme un bon automate. Peut-être que parfois, les humains se comportent encore moins bien que les ordinateurs. Parce qu'un ordinateur, quand il n'a pas toutes les données, eh bien, il plante. Ou alors, comme au téléphone, il dit « Je ne comprends pas votre question. Il me manque quelques informations. » Nous, nous sommes capables de nous embêter par orgueil et d'être pire que certains ordinateurs qui ont des procédures de contrôle pour vérifier que les résultats ne sont pas aberrants. Voilà pourquoi nous sommes personnellement requis pour intervenir dans le cours de l'histoire. Nous ne sommes pas là pour appliquer mécaniquement les principes, mais pour les interpréter au regard des situations qui se présentent et qui ont toujours quelque chose d'inédit, d'imprévu. Ce passage biblique se termine par le constat que la sagesse de Dieu se manifeste dans le jugement de Salomon. Il me semble que cette sagesse s'articule avec les trois aspects que nous avons observés. L'empathie. L'empathie qui vient de ce Dieu qui nous rend sensibles au réel. Dieu qui nous rend sensibles au vivant. Je crois que c'est tout l'enjeu de ces multiples rencontres de Jésus qui sont racontées dans les évangiles. Notre capacité à être saisi aux entrailles, à être ému de compassion, comme le bon samaritain qui est pris aux entrailles et qui ne peut pas laisser quelqu'un à moitié mort sur le bord de la route. Le raisonnable, qui vient de ce que Dieu nous rend intelligents à l'égard des situations. c'est-à-dire qui nous rend capables d'établir des relations entre les vivants, en tenant compte de la valeur que nous accordons aux différents aspects de la vie. Être capable de donner du sens, être capable d'apprécier la valeur symbolique de quelque chose. La responsabilité, enfin, qui vient de ce que Dieu nous libère des lois qui sont comprises comme des carcans, comme des algorithmes définitifs. Je ne sais pas si vous connaissez les programmeurs, si vous avez un peu discuté avec eux de leur travail. Il ne faudrait pas imaginer que la programmation informatique est une science exacte. Ils bidouillent, comme tous les scientifiques, comme les théologiens. On progresse pas à pas, on se débrouille avec le réel. Ne faites pas de l'informatique, ne faites pas du numérique une idole. Ne faites pas de la loi non plus une idole, auquel nous devrions nous soumettre servilement. Alors que nous pouvons comprendre la loi à la manière de Jean Calvin, avec ce fameux troisième usage de la loi, comme l'expression de ce que Dieu nous rend capable d'accomplir. Autrement dit, la loi qui nous permet de découvrir ce qui nous est permis d'espérer.